Chapitre 10 La cordelette rouge. Coralie avait senti ses jambes fléchir sous elle et elle s'était jetée sur le prie-dieu où ardemment, éperdument, elle priait. En faveur de qui? Pour le repos de quelles âmes inconnues? Elle ne savait pas, mais tout son être était embrasé de fièvre et d'exaltation et les mots seuls de la pierre rière pouvaient l'apaiser. Patrice lui dit à l'oreille « Comment s'appelait votre mère, Coralie ?»« Louise, répondit-elle. Et mon père s'appelait Armand. Il ne s'agit donc ni d'elle ni de lui, et pourtant... » Patrice aussi montrait une agitation extrême. S'étant baissé, il examina les 19 couronnes, puis de nouveau la pierre tombale et il reprit « Pourtant, Coralie, la coïncidence serait vraiment trop anormale. Mon père est mort en cette année 1895. Ma mère est morte également en cette même année, dit-elle, sans qu'il me soit possible de préciser la date. Nous le saurons, Coralie, affirma-t-il. Tout cela peut se vérifier, mais dès maintenant, voici une vérité qui apparaît. Celui qui entrelaçait les noms de Patrice et de Coralie ne pensait pas seulement à nous et ne regardait pas seulement l'avenir. Peut-être plus encore songeait-il au passé, à cette Coralie et à ce Patrice dont il savait la mort violente et qu'il avait pris l'engagement de venger. Venez, Coralie, et que l'on ne puisse pas soupçonner que nous sommes venus jusqu'ici. Ils redescendirent le sentier et franchirent les deux portes de la ruelle. Personne ne les vit entrer. Patrice conduisit aussitôt Coralie chez elle, recommanda à Yabon et à ses camarades de redoubler de surveillance et sortit. Il ne revint que le soir pour repartir dès le matin, et ce n'est que le jour suivant, vers 3 heures, qu'il demandait à Coraline de le recevoir. Tout de suite, elle lui dit « Vous savez, oh, je sais beaucoup de choses, Coralie, qui ne dissipent pas les ténèbres du présent, je serais presque tenté de dire au contraire, mais qui jettent des lueurs très vives sur le passé. Et qui explique ce que nous avons vu avant-hier ?» demanda-t-elle anxieusement. « Écoutez-moi, Coralie. » Il s'assit en face d'elle et prononça. Je ne vous raconterai pas toutes les démarches que j'ai faites. Je vous résumerai simplement le résultat de celles qui ont abouti. Avant tout, j'ai couru jusqu'à la mairie de Passy, puis à la légation de Serbie. « Alors, dit-elle, vous persistez à supposer qu'il s'agissait de ma mère ?»« Oui, j'ai pris copie de son acte de décès, Coralie. Votre mère est morte le 14 avril 1895. » « Oh, fit-elle, mais c'est la date inscrite sur la tombe ?»« Oui, la même date. »« Mais ce nom de Coralie, ma mère s'appelait Louise. »« Votre mère s'appelait Louise Coralie, comtesse Sodolavitch. » Elle répéta entre ses dents. « Oh, ma mère chérie, c'est donc elle qui a été assassinée. »« C'est donc pour elle que j'ai prié là-bas. » « Oui, c'est pour elle, Coralie, et pour mon père. Mon père s'appelait Armand Patrice Verval. J'ai trouvé son nom exact à la mairie de la rue Drouot. Il est mort le 14 avril 1895. » Patrice avait eu raison de dire que des lueurs singulières illuminaient maintenant le passé. Il était établi de la façon la plus formelle que l'inscription de la tombe concernait son père à lui et sa mère à elle, tous deux assassinés le même jour. Pour qui, pour quel motif, à la suite de quel drame? C'est ce que la jeune femme demanda à Patrice. « Ah, oh, je ne puis encore répondre à vos questions, dit-il, mais il y en a une autre que je me suis posée, plus facile à résoudre celle-là, et qui nous apporte également une certitude sur un point essentiel. » À qui appartient le pavillon? Extérieurement, sur la rue Renoir, aucune indication. Vous avez pu voir le mur de la cour et la porte de cette cour, rien de particulier. Mais le numéro de la propriété me suffisait. J'ai été chez le percepteur du quartier et j'ai appris que les impositions étaient payées par un notaire habitant l'avenue de l'Opéra. J'ai fait visite à ce notaire et j'ai appris ceci. Il s'arrêta un moment et déclara. Le pavillon a été acheté il y a 21 ans par mon père. 2 années plus tard, mon père mourait et ce pavillon, qui faisait donc partie de son héritage, fut mis en vente par le prédécesseur du notaire actuel et acheté par un sieur Siméon Diodokis, sujet grec. Oh, c'est lui ! S'écria Coralie. Diodokis, c'est le nom de Siméon. Or, continua Patrice, Siméon Diodokis était l'ami de mon père, puisque mon père, sur le testament que l'on trouva, l'avait désigné comme légataire universel, et puisque ce fut Siméon Diodokis qui, par l'entremise du notaire précédent et d'un solliciteur de Londres, réglait mes frais de pension et me fit remettre à ma majorité la somme de 200 000 francs, solde de l'héritage paternel. Ils gardèrent un long silence. Bien des choses leur apparaissaient, mais indistinctes encore, estompées comme ces spectacles que l'on aperçoit dans la brume du soir. Et une de ces choses dominait toutes les autres. Patrice murmura. Votre mère et mon père se sont aimés, Coralie. Cette idée les unissait davantage et les troublait profondément. Leur amour se doublait d'un autre amour, comme le leur meurtri par les épreuves, plus tragique encore et qui avait fini dans le sang et dans la mort. Votre mère et mon père se sont aimés, reprit-il. Sans doute furent-ils de ces amants un peu exaltés, dont l'amour a des puérilités charmantes, car ils voulurent s'appeler entre eux d'une façon dont personne ne les avait appelés, et ils choisirent leur second prénom, qui était le vôtre et le mien également. Un jour, votre mère laissa tomber son chapelet en grain d'améthyste, le plus gros se cassa en 2 morceaux, mon père fit monter l'un de ces morceaux en breloque qui suspendit à la chaîne de sa montre. Votre père et mon père étaient tous deux veufs. Vous aviez 2 ans et moi 8 ans. Pour se consacrer entièrement à celle qu'il aimait, mon père m'envoya en Angleterre et il acheta le pavillon où votre mère, qui habitait l'hôtel voisin, allait le rejoindre en traversant la ruelle et en usant de cette même clé. C'est dans ce pavillon ou dans le jardin qui l'entoure qu'ils furent sans doute assassinés. Nous le saurons d'ailleurs, car il doit rester des preuves visibles de cet assassinat. Des preuves que Siméon Diodokis a trouvées, puisqu'il n'a pas craint de l'affirmer par l'inscription de la pierre tombale. Et qui fut l'assassin? Murmura la jeune femme. Hein, comme moi, Coralie, vous le soupçonnez. Le nom abhorré se présente à votre esprit, bien qu'aucun indice ne nous permette la certitude. S.A.S. dit Coralie en un cri d'angoisse. Oui, très probablement. Elle se cacha la tête entre les mains. Oh non, non, cela ne se peut pas. Il ne se peut pas que j'aie été la femme de celui qui a tué ma mère. Vous avez porté son nom, mais vous n'avez jamais été sa femme. Vous le lui avez dit la veille même de sa mort, en ma présence. N'affirmons rien au-delà de ce que nous pouvons affirmer, mais tout de même, rappelons-nous qu'il fut notre mauvais génie, et rappelons-nous aussi que Siméon, l'ami et le légataire universel de mon père, l'homme qui acheta le pavillon des 2 amants, l'homme qui jura sur la tombe de l'Évangée, rappelons-nous que Siméon, quelques mois après la mort de votre mère, se faisait engager par Essarès comme gardien de sa propriété, devenait son secrétaire et peu à peu entrait dans sa vie. Pourquoi? sinon pour mettre à exécution des projets de vengeance. Mais il n'y a pas eu vengeance. Qu'en savons-nous? Savons-nous comment est mort et sa res bête? Certes, ce n'est pas Siméon qui l'a tué, puisque Siméon se trouvait à l'ambulance. Mais peut-être l'a-t-il fait tuer. Et puis la vengeance a mille façons de se traduire. Enfin, Siméon obéissait sans doute à un désordre de mon père. Sans doute voulait-il d'abord atteindre un but que mon père et que votre mère s'étaient proposé, l'union de nos destinées, Coralie. Et ce but a dominé sa vie. C'est lui, évidemment, qui plaça parmi mes petits bibelots d'enfants cette moitié d'améthyste dont l'autre moitié formait un grain de votre chapelet. C'est lui qui collectionna nos photographies. C'est lui, enfin, notre ami inconnu, qui m'envoya la clé accompagnée d'une lettre que je n'ai pas reçue, hélas. Alors, Patrice, vous ne pensez plus qu'il est mort, cet ami inconnu, et que vous avez entendu ses cris d'agonie? Bon, je ne sais pas. Siméon a-t-il agi seul? Avait-il un confident, un assistant dans l'œuvre qu'il a entreprise? Et est-ce celui-là qui est tombé à 7h18? Je ne sais pas. Tout ce que s'est passé en cette matinée sinistre reste dans une ombre que rien n'atténue. La seule conviction que nous puissions avoir, c'est que depuis 20 ans, Siméon Diodokis a poursuivi en notre faveur et contre l'assassin de nos parents une tâche obscure et patiente, et que Siméon Diodokis est vivant. Et Patrice ajouta, vivant mais fou, de sorte que nous ne pouvons ni le remercier ni l'interroger sur la sombre histoire qu'il connaît ou sur les périls qui vous menacent. Et pourtant lui seul. Une fois de plus, Patrice voulut tenter l'épreuve, bien qu'assuré d'un échec nouveau. Siméon occupait, dans l'allée naguère réservée au logement des domestiques, une chambre où il était le voisin de 2 mutilés. Patrice y alla, Siméon s'y trouvait. À moitié endormi dans un fauteuil, tourné vers le jardin, il tenait à sa bouche une pipe éteinte. La chambre était petite, à peine meublée, mais propre et claire. Toute la vie secrète de ce vieillard s'y était écoulée. À diverses reprises, en son absence, M. Desmalions l'avait visité. Patrice également, chacun à son point de vue. L'unique découverte qui valut d'être notée consistait en un dessin sommaire fait au crayon derrière une commode. 3 lignes qui se croisaient, formant un vaste triangle régulier. Au milieu de cette figure géométrique, un barbouillage effectué grossièrement avec de l'or adhésif. Le triangle d'or. Sauf cela qui n'avançait en rien les recherches de M. Desmalions, aucun indice. Patrice marcha directement sur le vieux et lui frappa sur l'épaule. « Siméon !» dit-il. L'autre leva sur lui ses lunettes jaunes et Patrice eut une envie soudaine de lui arracher cet obstacle de verre qui cachait les yeux du bonhomme et empêchait de pénétrer au fond de son âme et de ses souvenirs lointains. Siméon se mit à rire stupidement. Ah, songea Patrice, c'est là mon ami et l'ami de mon père. Il a aimé mon père, il a respecté ses volontés, il a été fidèle à sa mémoire. Il lui a consacré une tombe sur laquelle il priait, il a juré de le venger, et sa raison n'est plus. Patrice sentit l'inutilité de toute parole. Mais si le son de la voix n'éveillait aucun écho dans le cerveau égaré, peut-être les yeux gardaient-ils quelque mémoire. Il écrivit sur une feuille blanche les mots que Siméon avait dû contempler tant de fois. Patrice et Coralie, 14 avril 1895. Le vieux regarda, hocha la tête, et recommença son petit ricanement douloureux et stupide. L'officier continua. Armand Belval. Toujours chez le vieux, même torpeur. Patrice tenta l'épreuve encore. Il traça les noms d'Essarès et du colonel Fakhri, dessina un triangle. Le vieux ne comprenait pas et ricanait. Mais soudain, son rire eut quelque chose de moins enfantin. Patrice avait écrit le nom du complice Bourneuf, et l'on aurait dit que cette fois, un souvenir agitait le vieux secrétaire. Il essaya de se lever, retomba sur son fauteuil, puis se dressa de nouveau et saisit son chapeau qui était accroché au mur. Il quitta sa chambre et, suivi de Patrice, il sortit de la maison et tourna sur la gauche du côté d'Auteuil. Il avait l'air d'avancer comme ces gens endormis que la suggestion contraint à marcher sans savoir où ils vont. Il prit par la rue de Boulainvilliers, traversa la Seine et s'engagea dans le quartier de Grenelle d'un pas qui n'hésitait jamais. Puis, sur un boulevard, il s'arrêta et de son bras tendu, fit signe à Patrice de s'arrêter également. Un kiosque les dissimulait. Il passa la tête. Patrice l'imita. En face, à l'angle de ce boulevard et d'un autre boulevard, il y avait un café avec une terrasse que limitaient des caisses de fusains. Derrière ces fusains, quatre consommateurs étaient assis. Trois tournaient le dos. Patrice vit le seul qui fut de face et reconnut Bourneuf. À ce moment, le vieux Siméon s'éloignait déjà, comme un homme qui a terminé son rôle et qui laisse à d'autres le soin d'en finir. Patrice chercha des yeux, aperçut un bureau de poste et y entra vivement. Il savait que M. Desmalions se trouvait rue Raynouard. Par téléphone, il lui annonça la présence de Bourneuf. M. Desmalions répondit qu'il arrivait aussitôt. Depuis l'assassinat d'Essarès Bey, l'enquête de M. Desmalions n'avait pas avancé en ce qui concernait les quatre complices du colonel Fakhri. On découvrit bien la retraite du sieur Grégoire et les chambres au placard, mais tout cela était vide. Les complices avaient disparu. Le vieux Siméon, se dit Patrice, était au courant de leurs habitudes. Il devait savoir que tel jour de la semaine, à telle heure, il se réunissait dans ce café, et il s'est souvenu tout à coup à l'évocation du nom de Bourneuf. Quelques minutes plus tard, M. Desmalions descendait d'automobile avec ses agents. L'affaire ne traîna pas. La terrasse fut cernée. Les complices n'opposèrent pas de résistance. M. Desmalions en expédia trois, sous bonne garde, au dépôt, et poussa Bourneuf dans une salle particulière. « Venez, dit-il à Patrice, nous allons l'interroger. » Patrice objecta. « Mais Madame Essarès est seule là-bas. »« Seule, mais non, il y a tous vos hommes. »« Oui, mais j'aime mieux y être. C'est la première fois que je la quitte et toutes ces craintes sont permises. » « Il s'agit de quelques minutes, insista M. Desmalions. Il faut toujours profiter du désarroi que cause l'arrestation. » Patrice le suivit, mais ils purent se rendre compte que Bourneuf n'était pas de ces hommes qui se déconcertent aisément. Aux menaces, il répliqua en haussant les épaules. « Oh, inutile, monsieur, de me faire peur. Je ne risque rien. Fusiller, des blagues. » En France, on ne fusille pas pour un oui ou pour un non, et nous sommes tous quatre sujets d'un pays neutre. Un procès, une condamnation, la prison, jamais de la vie. Vous comprenez bien que si vous avez étouffé l'affaire jusqu'ici, et si vous avez escamoté le meurtre de Mustapha, celui de Fahri et celui de Sarès, ce n'est pas pour ressusciter cette même affaire sans raison valable. Non, monsieur, oh, je suis tranquille. Le camp de concentration, voilà tout ce qui m'attend. Alors, dit M. Desmalions, vous refusez de répondre. Fichtre, non, le camp de concentration, soit, mais il y a 20 degrés de régime dans ces camps, et je tiens à mériter vos faveurs et par là à gagner confortablement la fin de la guerre. Mais d'abord, que savez-vous? À peu près tout. Tant pis, ma valeur diminue. Vous connaissez la dernière nuit des Sarès? Oui, et le marché des 4 millions, que sont-ils devenus? Bourneuf fut un geste de rage. Repris, volés, c'était un piège. Et qui les a repris? Oh, nommé Grégoire. Qui était-ce? Oh, son homme damné, nous l'avons su depuis. Nous avons découvert que ce Grégoire n'était autre qu'un individu qui servait de chauffeur à l'occasion. Qui lui servait, par conséquent, à transporter les sacs d'or de sa banque à son hôtel. Ben, nous croyons même savoir, oh, tenez, autant dire que c'est une certitude. Eh bien, ben, mais Grégoire, c'est une femme. Une femme? Ben, parfaitement, oui, sa maîtresse. Nous en avons plusieurs preuves, mais une femme solide, d'aplomb, forte comme un homme, qui ne recule devant rien. Vous connaissez son adresse? Non. Et l'or, vous n'avez aucune idée, aucun indice, aucun soupçon? Non, non, l'or est dans le jardin ou dans l'hôtel de la rue Renoir. Durant toute une semaine, nous l'avons vu rentrer, cet or. Depuis, il n'en est pas sorti. Nous faisions le guet chaque nuit, les cinq qui songent l'affirment. Aucun indice non plus relativement au meurtrier des Sarès? Aucun. Est-ce bien sûr? Pourquoi mentirais-je? Et si c'était vous ou l'un de vos amis? Bon, nous l'avons bien pensé qu'on le supposerait. Par hasard, et c'est heureux, nous avons un alibi. Facile à prouver? Oh, irréfutable. Nous examinerons cela. Donc, pas d'autres révélations. Non, mais une idée ou plutôt une question à laquelle vous répondrez à votre guise. Qui nous a trahis? Votre réponse peut m'éclairer car une seule personne connaissait le rendez-vous de chaque semaine ici, de 4 à 5 heures. Une seule personne, Sarès Bey. Et lui-même, il y venait souvent pour conférer avec nous. Sarès est mort. Qui donc nous a dénoncés? Le vieux Siméon. Comment, Siméon? Siméon Diodokis? Oui, Siméon Diodokis, le secrétaire de Sarès Bey. Lui, oh, le grenat, il me le paiera. Mais non, c'est impossible. Pourquoi dites-vous que c'est impossible? Pourquoi? Mais parce que. Il réfléchit assez longtemps, sans doute pour être bien sûr qu'il n'y avait pas d'inconvénient à parler. Puis il acheva sa phrase. Eh bien, parce que le vieux Siméon était d'accord avec nous. Qu'est-ce que vous dites? S'écria Patrice, fort surpris à son tour. Bien, je dis et j'affirme que Siméon Diodokis était d'accord avec nous. C'était notre homme. C'est lui qui nous tenait au courant des manœuvres équivoques de Sarès Bey. C'est lui qui, par un coup de téléphone donné à 9 heures du soir, nous a prévenu que Sarès avait allumé le fourneau des anciennes serres et que le signal des étincelles allait fonctionner. C'est lui qui nous a ouvert la porte en affectant, bien entendu, la résistance et tout en se laissant attacher dans la loge du concierge. C'est lui enfin qui avait congédié et payé les domestiques. Mais le colonel Fakih ne s'est pas adressé à lui comme un complice. Comédie, pour donner le change à Sarès. Comédie d'un bout à l'autre. Soit, mais. Pourquoi Siméon trahissait-il Sarès? Pour de l'argent? Non, par haine. Il avait contre Sarès Bey une haine qui nous a souvent donné le frisson. Le motif? Je sais pas. Siméon est un silencieux, mais cela remontait très haut. Connaissait-il la cachette de l'or? Demanda M. Desmalions. Non, c'est pas faute d'avoir cherché. Il n'a jamais su comment les sacs sortaient de la cave, laquelle n'était qu'une cachette provisoire. Et pourtant, il sortait de la propriété, en ce cas. Qui nous dit qu'il n'en fut pas de même cette fois? Mais cette fois-là, nous faisions le guet dehors, de tous les côtés, ce que Siméon ne pouvait faire à lui tout seul. Patrice reprit à son tour. « Vous n'en savez pas davantage sur lui ?»« Ma foi, non. Oh, cependant, il est arrivé ceci d'assez curieux. L'après-midi qui précéda le fameux soir, je reçus une lettre dans laquelle Siméon me donnait certains renseignements. Dans la même enveloppe, il y avait une autre lettre, mise là évidemment par une erreur incroyable, car elle semblait fort importante. Et que disait-elle ? Fit Patrice anxieusement. Bon, il était question d'une clé. Ne pouvez-vous préciser ? Moi, si la lettre, je l'avais conservée pour la lui rendre et le mettre en garde. Tenez, regardez, c'est bien son écriture. Patrice saisit la feuille de papier et tout de suite il vit son nom. La lettre lui était adressée comme il l'avait pressenti. C'était celle qu'il n'avait point reçue. Patrice, tu recevras ce soir une clé. Cette clé ouvre au milieu d'une ruelle qui descend vers la Seine deux portes, l'une à droite, celle du jardin que la femme que tu aimes, l'autre à gauche, celle d'un jardin où je te donne rendez-vous le 14 avril à 9h du matin. Celle que tu aimes sera là également. Vous saurez qui je suis et le but que je veux atteindre. Vous apprendrez tous deux sur le passé des choses qui vous rapprocheront plus encore l'un de l'autre. D'ici le 14 avril, la lutte qui commence ce soir sera terrible. Si je succombe, il est certain que celle que tu aimes va courir les plus grands dangers. Veille sur elle, Patrice, et que ta protection ne la quitte pas un instant. Mais je ne succomberai pas, et vous aurez le bonheur que je prépare pour vous depuis si longtemps. Toute mon affection. « C'est pas signé, » reprit Bourdeuf, « mais je le répète, l'écriture est de Siméon. Quant à la dame, il s'agit évidemment de Madame Essarès. » « Mais quel danger court-elle » s'écria Patrice avec inquiétude. « Essarès est mort, donc rien à craindre. »« Est-ce qu'on sait ? Oh, c'était un rude homme. » « Et à qui aurait-il donné mission de le venger ? Qui poursuivrait son œuvre ? » Je l'ignore, ben, il faut se méfier. Patrice n'écoutait plus. Il tendit vivement la lettre à M. Desmalions et, sans vouloir rien entendre, s'échappa. Rue Renoir et rondement, dit-il au chauffeur quand il eut sauté dans une auto. Il avait hâte d'arriver. Les dangers dont parlait le vieux Saint-Méon lui semblaient soudain suspendus sur la tête de Coralie. Déjà l'ennemi, profitant de son absence, attaquait sa bien-aimée. « Et qui pourrait la défendre si je succombe ?» avait dit Siméon. Or, cette hypothèse s'était réalisée en partie, puisqu'il avait perdu la raison. « Voyons quoi, murmurait Patrice, c'est idiot, je me forge des idées, il n'y a aucun motif. » Mais son tourment croissait à chaque minute. Il se disait que le vieux Siméon l'avait prévenu à dessein que la clé devait ouvrir la porte du jardin de Coralie, afin que lui, Patrice, pût exercer une surveillance efficace en pénétrant en cas de besoin jusqu'auprès de la jeune femme. Il vit de loin Siméon. La nuit était venue, le bonhomme rentrait dans l'hôtel. Patrice le dépassa devant la loge du concierge et l'entendit qui fredonnait. Patrice demanda au soldat de faction. « Rien de nouveau ?»« Oui, hein, mon capitaine. Maman Coralie. »« Bon, elle a fait un tour dans le jardin, elle est remontée il y a une demi-heure. »« Y a bon, y a bon, suivez Madame Coralie, il doit être à sa porte. Patrice grimpa l'escalier plus calme. Mais quand il parvint au premier étage, il fut très étonné de voir que l'électricité n'était pas allumée. Il fit jouer l'interrupteur. Alors il aperçut au bout du couloir Yabon à genoux devant la chambre de Maman Coralie, la tête appuyée contre le mur. La chambre était ouverte. « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » cria-t-il en accourant. Yabon ne répondit pas. Patrice constata qu'il y avait du sang sur l'épaule de son dolman. À cet instant, le Sénégalais s'affaissa. « Tonnerre ! Mais il est blessé ! Mort peut-être !» Il sauta par-dessus le corps et se précipita dans la chambre dont il alluma aussitôt l'électricité. Coralie était étendue sur un canapé. L'affreuse petite cordelette de soie rouge entourait son cou. Et cependant, Patrice n'avait pas en lui cette étreinte horrible du désespoir que l'on éprouve devant des malheurs irréparables. Il lui semblait que la figure de Coralie n'avait pas la pâleur de la mort. Et de fait, la jeune femme respirait. « Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, » se dit Patrice. « Elle ne mourra pas, j'en suis sûr. Et Yabon non plus. Le coup est manqué. » Il desserra la cordelette. Au bout de quelques secondes, la jeune femme respirait largement et reprenait connaissance. Elle lui sourit. Mais aussitôt, se souvenant, elle le saisit de ses deux bras, si faibles encore, et lui dit d'une voix tremblante « Oh, Patrice, j'ai peur pour vous. »« Peur de quoi, Coralie ? Quel est le misérable ? Je ne l'ai pas vu. Il avait éteint, il m'a prise à la gorge tout de suite et il m'a dit à voix basse « Toi d'abord, cette nuit sera le tour de ton amant. Oh, Patrice, j'ai peur pour vous. J'ai peur pour toi, Patrice. »